Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
On me.
Look! Papa, look!
Bienvenue à toutes et à tous. Nous vous proposons aujourd'hui une interview exclusive de Naoki Yamaguchi et Yoshinori Kitase, respectivement réalisateurs et producteurs de Final Fantasy VII Rebirth. Yoshinori Kitase a aussi, c'est important, réalisé le Final Fantasy VII original. Cet entretien, qui a eu lieu en novembre 2023, a été effectué par Patrick Helio et Marius Chapuis. Bonjour à tous les deux.
Salut Erwan.
Salut, salut.
Ça se prépare comment, un entretien pareil ?
Alors, d'abord, on relance les jeux en question. Alors, c'est pas désagréable, hein. On relance donc le remake, évidemment. Et bien sûr, le Final Fantasy VII originel sur cette bonne vieille PlayStation qui tourne toujours bien de mon côté.
Sans blague.
D'avoir un bloc optique qui fonctionne toujours. Donc, évidemment, on relance les jeux, on consulte de la documentation et il y en a beaucoup sur ces jeux-là. Et c'est important, on discute pas mal entre nous, bien sûr.
Ouais.
C'est important avant de se lancer sur ce genre d'interview, de se mettre d'accord sur les sujets qu'on va aborder, les questions qu'on va poser. On essaie du coup de définir un nombre relativement restreint de questions, même si on en a plein qui nous viennent en tête, hein, pendant les jours de préparation. Parce qu'on sait pertinemment qu'on va pas avoir tout le temps qu'on veut, qu'une interview comme ça se fait sur un temps limité. Donc voilà, il faut aussi limiter son nombre de
ouais,
questions.
Forcément.
Donc moi, d'emblée, je sais très bien que je vais causer Remake et Rebirth, évidemment. Mais le projet que j'ai, moi, c'est évidemment de poser quelques questions, de les cuisiner au sujet du Final Fantasy VII originel. Donc voilà, on prépare tout ça et puis on se lance.
Et puis très tôt, on a établi que l'angle qui nous intéressait le plus, c'était la place de cette nouvelle trilogie Final Fantasy dans le grand ordre des remakes. Ce côté étrange de jeux qui sont à la fois scrupuleusement fidèles au jeu original et en même temps capables de sortir des trucs bizarres, de contester l'ordre des choses dans le grand final de Final Fantasy VII Remake. Au point qu'aujourd'hui, au moment de lancer Rebirth, on ne sait pas très bien dans quelle mesure ce jeu est une nouvelle création ou un simple remake, entre guillemets. Bref, on voulait les interroger sur la liberté qu'ils se sont autorisés pour recréer ce classique.
C'est quoi votre rapport à vous avec Final Fantasy VII ?
Pour moi, il fait véritablement partie de ces titres qui sont très emblématiques de ce que j'appelle les années PlayStation, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que vraiment, enfin, moi, je l'associe à des grands classiques comme Resident Evil, les premiers Tomb Raider, Tekken 2, enfin, des monuments de jeux vidéo qui contribue à redéfinir, voire à créer des nouveaux genres de
ouais.
jeux. Alors c'est vrai que Final Fantasy VII, comme son titre l'indique, il s'inscrivait dans une longue lignée de jeux, de traditions de jeux JRPG. Mais il y avait un choc, on sait que c'est un des premiers gros titres qui arrive en Europe du genre, qui est un des premiers représentants traduits, etc. Et il y avait ce choc des technologiques, en fait, vraiment d'un JRPG qui est radicalement transformé par cette génération de consoles 32 bits qui transforme complètement les visuels, le son, même s'il se cantonne encore sur des mécaniques de assez traditionnelles, en fait, de JRPG. Donc pour moi, il y a vraiment c'est très sensible. Moi, mes rapports à des jeux comme ça, si je pense à l'original, c'est quelque chose de très sensible. C'est le contact de la manette d'origine de la PlayStation. C'est le cliquetis du lecteur de CD qui se met en route lorsqu'une cinématique s'enclenche. Et puis ce sont les évidemment, enfin moi il y a, j'ai vraiment le souvenir parce que je relance régulièrement ce jeu parce que il a été réédité sur différentes machines, mais c'est les combats, c'est la mise en scène des combats très dynamiques avec ces jingles sonores qui sont très 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 mémorables en fait, qui ouais. sont vraiment des stimuli qu'on reconnaît immédiatement. Donc ouais, beaucoup de nostalgie évidemment. Encore une fois, un titre qui a énormément marqué son époque pour l'aspect technologique, mais aussi pour ce qu'il apporte, notamment aux Européens, parce qu'on découvre aussi ce genre qui prend des faux airs de blockbuster absolument incroyables en termes de visuel avec les cinématiques inoubliables.
Après, faut pas exagérer, c'est pas Baldur's Gate non plus.
Dernier point avant de lancer l'entretien, pour celles et ceux qui n'ont jamais joué à Final Fantasy VII et qui ne savent vraiment rien du jeu original, vous abordez dans l'entretien un moment iconique de l'histoire même du jeu, qu'on pourrait considérer comme un spoiler. Mais c'était important d'en parler. Pourquoi ?
On s'est posé la question. Alors c'est vrai, quand on a préparé l'interview, on tournait autour de cette question parce qu'on savait que ça serait central et qu'à un moment ou un autre, ça faisait partie véritablement des grands enjeux liés à cette deuxième partie de la trilogie de remake de Final Fantasy VII. On sait que c'est un moment emblématique de l'histoire du jeu vidéo. On sait pertinemment aussi, en préparant l'interview, qu'on n'aura pas forcément l'occasion de discuter tous les quatre matins avec notamment Monsieur Kitase à ce sujet. Et la surprise, c'est qu'il joue plutôt bien le jeu. Je trouve que c'est très intéressant de l'entendre. Donc, on se dit qu'on a réussi le coup, en fait.
Ouais, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir poncé tous les Final Fantasy pour avoir entendu parler de cet événement. C'est un moment hors norme qui a débordé les frontières de son jeu pour devenir un symbole, un événement qui a bouleversé tout simplement la façon dont on raconte une histoire en jeu vidéo. Et on cherchait pas tellement, en fait, à savoir ce qui allait se passer dans Rebirth, parce que ça, on sait que dans le cadre d'un entretien, ça mène nulle part, que les développeurs n'ont pas ouais. intérêt à nous raconter ça.
Surtout plusieurs semaines avant le lancement, enfin, on savait voilà. que c'était pas possible d'avoir...
Mais on voulait quand même en savoir un peu plus sur comment on approche un événement pareil au moment d'un remake, comment on procède, presque de façon mécanique, et comment on discute, sans savoir l'issue finale.
Merci beaucoup à tous les deux. On vous laisse avec Naoki Hamaguchi et Yoshinori Kitase pour parler de la création de Final Fantasy VII Rebirth. Dernier point, avant de commencer l'entretien, les deux créateurs étaient accompagnés de leur traducteur de japonais vers l'anglais, puis nous avons traduit le résultat en français. Alors, cette double traduction peut forcément s'éloigner du propos original, mais nous avons tout fait pour en conserver le sens. Et puis, dernier point pour reconnaître qui parle, Marius double Naoki Hamaguchi et Patrick Yoshinori Kitase. Bonne écoute. Est-ce que vous pourriez décrire Final Fantasy VII en un seul mot ?
Final Fantasy VII pourrait s'apparenter à un coffre à jouets, voire à une boîte à bento. La façon dont je décrivais le jeu aux équipes, quand je tentais de leur expliquer la façon dont on devait approcher l'original, ce qui en faisait le jeu qu'il était, c'est qu'il fallait en voir toutes les couches. C'est un jeu composé de plein d'éléments différents. FF7 a plein de personnages, de mini-jeux, de quêtes et de petites histoires. Et c'est cette variété-là qui permettait de choisir comment l'approcher en opérant les combinaisons de notre choix. En cela, je trouve qu'il ressemble à une boîte à bento, qui est toujours composée de différentes saveurs. C'est le terme, en tout cas, qui me permettait le mieux de communiquer mon ressenti à l'équipe.
Qu'est-ce qu'il fallait absolument garder de l'original, selon vous ? Aviez-vous tous les deux la même idée de ce que devait être ce remake ?
Il faut garder en mémoire que lorsqu'on a commencé, et d'ailleurs j'en discutais avec Monsieur Hamaguchi et son équipe, j'étais en faveur d'une transformation plus radicale du jeu. Il fallait le moderniser, le mettre au goût du jour, et je l'ai poussé à transformer le jeu en profondeur s'il le souhaitait. Mon conseil était de ne rien s'interdire. Évidemment, c'était lui et son équipe qui allaient s'occuper de ce remake, donc la décision lui revenait.
Quand le jeu original est sorti, je n'étais qu'un simple joueur, un fan. Et j'ai approché le remake avec ce sentiment-là. Et une idée déjà assez forte de ce qu'il fallait garder, des éléments où il ne fallait pas s'éloigner de l'original. J'avais bien en tête l'idée de moderniser son apparence, son allure générale, mais mon idée était de rester fidèle à l'original. Sur certains points, je sentais bien qu'on pouvait agir avec davantage de liberté, s'autoriser plus de choses, transformer quelques points de l'histoire. Et tout cela s'est décidé au gré d'aller et retour entre moi et M. Kitase.
Êtes-vous rapidement tombé d'accord ?
J'ai l'impression qu'on est tombé d'accord sur la plupart des points assez vite, même si ça a été tout un processus. Après, une fois que M. Kitase s'est décidé sur le nom de la personne en charge du projet et que l'on s'est entendu sur les grands principes de ce remake, il a en grande partie laissé faire. Mon équipe et moi avons pu travailler dans une grande liberté. On discutait de ces grandes transformations au moment de les tester in situ. On échangeait sur le fait qu'une scène fonctionnait ou non. Une des premières scènes du jeu, on pourrait vous donner un bon exemple de ce processus. La scène où Cloud atteint le premier réacteur Mako et regarde vers le ciel étoilé. Un moment assez emblématique. Monsieur Kitase est intervenu pour indiquer que l'on pouvait tout à fait changer la forme de ce réacteur, le moderniser. Mais à mes yeux, non. Ça semblait trop étrange. Il n'était pas question de toucher à ce moment qui était iconique. Et je savais que d'autres, comme moi, ne voudraient pas qu'on touche à ce moment-là. Par conséquent, c'est moi qui ai poussé pour qu'on ne touche à rien. Ça dit assez bien le ping-pong qui s'est établi entre nous.
La question de l'évolution technologique est intéressante. Quand on se confronte notamment à un remake dans ce type de cadre d'anticipation se rapprochant de la science-fiction. Plus de 20 ans séparent l'original du remake. Et ce qui semblait autrefois moderne et futuriste à l'époque ne résonne pas du tout de la même manière aujourd'hui. Les écrans de télé ont changé, les téléphones ont changé, donc on se posait la question de remanier tout ce qui avait attrait à la technologie pour retrouver une modernité. Mais au risque de perdre le charme de l'original, de dénaturer un peu l'esprit. C'est une question qui me travaillait beaucoup. Au final, les artistes ont réussi à faire les deux, à conserver l'esprit de Final Fantasy VII tout en modernisant un peu l'ensemble.
Et puis il y avait le cas de scènes qu'on ne pouvait pas vraiment refaire à l'identique aujourd'hui. Il fallait les reprendre en profondeur, les changer, tout en essayant d'en garder l'esprit. Par exemple, la scène de l'Onébine, où il fallait trouver un moyen de mettre en scène ce moment de burlesque, mais de façon plus acceptable.
Petite précision en passant, dans l'original, le pro-chevalier devait se déguiser en fille pour accéder à une zone et se trouvait comme attaqué dans sa masculinité par cet exercice. Quand, dans la version modernisée, la scène se transforme en un grand show transformiste totalement assumé et joyeux. On reprend. C'est quoi, pour vous, un bon remake de jeu vidéo ?
Quand messieurs Kitase et Nomura m'ont confié la responsabilité de diriger ce remake, j'ai d'abord été assez inquiet. Durant toute une période, je me suis demandé comment approcher un tel travail. J'étais assez déchiré au sujet du degré de liberté que je pouvais m'autoriser, à quel point je devais scrupuleusement protéger l'original et dans quelle mesure je pouvais le transformer et comment justifier d'éventuelles transformations.
À
l'époque, je me posais toutes ces questions.
まあ、ディズニーの映画で美女と野獣がこう映画でこう公開されてたんですよ。で、まさにあの映画のアニメだったものを実写にするっていうところで、で、
ディズニー sortait l'adaptation en prise de vue réelle de La Belle et la Bête. Je suis allé le voir et ça m'a ouvert les yeux. Ils n'ont rien changé à l'histoire, ils ont gardé tout tel quel ou presque. Mais la seule façon de présenter les personnages semblait suffisante pour moderniser cette histoire, lui donner une touche plus contemporaine.
Ah, こういうふうに実際はなってたんだみたいなところで、やっぱ新しいなんだろうな。
Et cela tenait au simple passage de l'animation à la prise de vue réelle.
その時には感じれなかった新しさみたいなものを感じれたので、あ、やっぱりこうリメイク作品に対してこう作り込む度合いっていうのは、あの、なんか変に変えてやろう変えてやろうっていうよりかは、原作の当時の設定のまま。
Ce que m'a appris le film, c'est qu'on n'avait pas tellement besoin de changer le fond de l'histoire, son propos, sa structure narrative, et qu'une simple mise à jour visuelle pouvait avoir un effet très puissant. Il me semblait que cette approche-là parlerait aux fans. Ce film a vraiment eu un gros effet sur la façon de regarder le remake de Final Fantasy.
Une question pour Monsieur Kitase, ce n'était pas un peu étrange de travailler sur le remake de votre premier jeu en tant que réalisateur ?
L'idée de faire ce remake vient de moi, en vérité. Il me semblait que le jeu d'origine, l'histoire, ses personnages, avaient une qualité assez universelle et qu'ils pouvaient résonner avec le public quelle que soit l'époque ou le continent. Cependant, comme tous les jeux vidéo, ils se heurtaient à une obsolescence technique. La technologie de l'époque semble aujourd'hui très datée.
PlayStation 1 で表現してた400ポリゴンのキャラクターから比較して、やっぱり現代の今のプレイヤーが若いプレイヤー。
Cela remonte à la première PlayStation. Les personnages étaient composés de quelques centaines de polygones, et aujourd'hui, on ne voit en eux que des graphismes extrêmement basiques, simplistes. Pour le public d'aujourd'hui, le jeu est vu comme un objet daté, assimilé à du rétro gaming. C'est pourquoi il me tenait à cœur d'offrir à ce jeu de nouveaux graphismes pour qu'on puisse retrouver l'expérience d'origine de cette histoire assez atemporelle. Pour autant, il me semblait important que ce ne soit pas moi qui mette en scène ce remake. Il me semblait que le résultat serait plus intéressant si on laissait la charge à une nouvelle génération, incarnée par M. Hamaguchi et son équipe, qui comprennent mieux les jeux d'aujourd'hui, leur grammaire, leur structure. Quelqu'un aussi plus proche du public visé, qui sait mieux que moi ce qui peut résonner en eux. Et au final, il me semble que c'était la bonne décision, que c'était la meilleure façon de faire ce remake.
Monsieur Hamaguchi, quel était votre rapport au Final Fantasy VII d'origine ?
そうですね。まさにあの、私はこう、まあ、ファイナル、まあ、その頃多分中学生とかの頃なんで、まあ、まさにファイナルファンタジー6とか。
J'étais au collège quand le jeu est sorti. À l'époque, j'ai surtout joué à Final Fantasy 6 et 7, et j'étais vraiment un simple fan. Mais ces jeux ont eu un gros effet sur moi.
あの当時なかったんですよね。それこそういうのって、やっぱ、あの、アニメとか、あの、漫画とか。
Je savais alors combien les films, les dessins animés ou les mangas étaient capables de raconter de grandes histoires. Mais c'est avec ces jeux-là que j'ai découvert que le jeu vidéo était capable de se transformer en grande fresque pleine d'émotions. C'était une découverte car à l'époque, les jeux ne mettaient pas autant l'emphase sur l'histoire et les sentiments qu'aujourd'hui. Final Fantasy VII est resté pour moi une source d'inspiration quand j'ai débuté dans l'industrie et je voulais faire des jeux capables de produire ce type d'émotions que j'avais ressenti à l'époque.
La modernisation graphique de Final Fantasy VII est évidente, mais ce remake fait aussi le choix d'écarter le système de combat au tour par tour, une composante pourtant essentielle du jeu original. Pourquoi ?
C'était nécessaire de laisser derrière nous ce système. Et il y avait à mes yeux une raison très précise pour cela. On en revient à cette idée clé du jeu vidéo qu'est l'immersion. L'idée que pour avoir l'impression d'être immergé dans cet univers, d'en être partie prenante, le joueur a besoin de feedback, de retour. Dans un jeu d'action, on presse un bouton et on a une réponse immédiate à l'écran. Quelque chose qui nous fait tout de suite ressentir qu'on a une influence sur le
monde.
Or, le système en tour par tour impose un retard dans la transmission de ce retour.
分が体験してる
という。On presse un bouton, et il faut un certain moment avant de pouvoir apprécier la conséquence du geste. Tout est moins immédiat.
体験してるっていうふうに感じてしまうので、今後やっぱりその、なんかターンベースがダメだというつもりは全くないんですけど、あれは非常に、あれはあれで非常にいい、こう、ゲ
ーム。Ne vous méprenez pas, je suis attaché au jeu en tour par tour. Je trouve ça super. Ils ont une dimension stratégique passionnante, mais il me semblait que cela ne convenait pas à l'immersion et au réalisme qu'on souhaitait obtenir en passant à un jeu en HD avec une très haute résolution et qu'à l'inverse, l'action s'imposait.
結果として、そういう HD のゲームっていうのはよりアクション性のリアルタイム。
Il me semble que le feedback et l'immersion sont des éléments clés de ces jeux modernes.
Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur la différence d'échelle entre le Final Fantasy VII original et ce remake ? Le jeu vidéo a beaucoup changé en 25 ans. À l'époque, vous vous battiez contre des limitations techniques qui semblent moins décisives aujourd'hui. Contre quoi vous battez-vous aujourd'hui ?
まあ、ちょっと難しい。ね、過去は天口は直接やってないし、現代は僕も直接そこまで。
Il est difficile de vous répondre précisément parce que Monsieur Hamaguchi n'était pas présent sur le premier Final Fantasy VII et il ne sait pas comment on développait des jeux à l'époque. Et pour ma part, je n'ai pas été directement impliqué avec l'équipe de développement du remake. Donc je connais moins bien le volet contemporain. Mais je peux essayer de vous répondre depuis mon point de vue, depuis le banc de touche. D'abord, comme vous le mentionnez, justement, par le passé, on devait se battre avec les limitations techniques de la première PlayStation. Il fallait réduire tout ce que l'on montrait à sa plus simple expression. Mais les gens comprenaient. Ils savaient que si l'on adoptait une représentation aussi stylisée, minimaliste, c'était pour montrer tout un monde. On avait le choix entre créer tout un monde très vide ou tenter de condenser la représentation de chaque personnage pour les faire exister dans ce vaste espace. Les gens acceptaient ce compromis qui permettait d'en montrer davantage. Et ça coûtait moins cher à faire aussi, ce qui nous permettait de produire un jeu avec autant de contenu. Si l'on compare à ce qui existe aujourd'hui, ces limitations techniques ont bien changé. Encore une fois, tout ceci est à prendre avec des pincettes. Je n'ai qu'une vue partielle du développement en tant que producteur, et il est tout à fait possible que je ne sois pas conscient de tous les problèmes que l'équipe a dû surmonter. Aujourd'hui, on peut faire bien plus de choses. On peut faire à peu près tout ce que l'on veut. Néanmoins, les restrictions sont ailleurs. Tout coûte aussi beaucoup plus cher. Les sommes investies, les calendriers de production, tout est beaucoup plus important de nos jours. On pourrait tout à fait se perdre dans la création d'univers, mais tout est affaire d'équilibre de calendrier, de temps qu'il est possible d'investir. Voilà ce qui fait office de contrainte aujourd'hui. Je dis que tout est possible aujourd'hui, mais au moment de lancer ce projet de remake, il me paraissait complètement inconcevable de parvenir à recréer tout l'univers de FF7. En termes de volume, de masse de contenu, cela me paraissait impossible de tout refaire avec des graphismes modernes. Mais peu à peu, on m'a démontré le contraire. En vérité, l'équipe de M. Hamaguchi est déjà parvenue à recréer la moitié du jeu original, ce qui reste pour moi une grande surprise. Ils ont réussi l'impossible.
ちょっと私のこう、まあ、多分今のはこうプロデューサーよりというか、あの観点で、私がじゃあ実際にこうクリエイティブな観点で。
Vous avez eu la version du producteur, mais j'ai l'impression que je peux vous offrir un autre son de cloche côté créatif.
原作の時は私開発しなくて、
Pour moi, la grosse différence entre la façon de faire hier et aujourd'hui tient au fait qu'à l'époque, la qualité des jeux tenait aussi à leur habileté à ne pas tout montrer.
あの当時のこうまあ、20年前
Il ne pouvait de toute façon pas tout montrer à cause de limitations techniques. Mais au-delà de ça, certains jeux savaient se reposer sur l'imaginaire du joueur. C'est le joueur qui remplissait les blancs. On pouvait se balader dans une grande zone et arriver au bord de la carte. Et soudain apparaissait un écran noir avant qu'on se retrouve téléporté dans une autre zone. Le joueur savait de quoi il retournait. Son esprit travaillait pour remplir ses creux, imaginer ce qui pouvait bien être arrivé au personnage entre ces deux zones.
なんか想像して膨らましてくれるみたいなことがむしろこう楽しいと思える。
Avec le niveau de détail et de réalisme que l'on a atteint, ce genre de choses n'est plus possible. Si on refaisait exactement la même chose, une grande et belle zone où l'écran vire au noir quand on atteint cette limite, le réflexe des joueurs ne sera pas de chercher à imaginer ce qui s'est produit entre ces deux espaces, mais de dire ah, bah ceux-là ils ne savent pas faire un jeu.
急にじゃあ 3D のリアルなマップを歩いてたら暗転されてなんかこう先に飛んだら。
À l'époque, le jeu vidéo empruntait encore au langage de la bande dessinée. Ces zones vides produisaient quelque chose de comparable à l'espace intericonique, au vide entre les cases d'une bande dessinée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il me semble que c'est la plus grande différence entre les façons d'hier et d'aujourd'hui. Au moment de faire ce remake, de redonner à vivre l'expérience Final Fantasy VII, il a fallu combler ces hors-champs, nous creuser les méninges pour parvenir à tout montrer par le menu. Il a fallu penser toute la structure autour de cela pour parvenir à retrouver les sensations qu'offrait le jeu à l'époque. Il a fallu remplir ces creux pour la nouvelle génération de joueurs.
Est-ce qu'il existe encore un espace pour l'imagination des joueurs dans ces jeux photoréalistes ?
Il me semble que ça varie d'un jeu à l'autre. Si l'on tente de réfléchir de manière globale, en se basant sur les tendances dessinées par les derniers jeux parus, les espaces dans lesquels l'imagination du joueur est mobilisée se sont aujourd'hui comme déplacés. L'imagination se focalise plutôt sur la façon d'interagir avec le jeu. Les joueurs aiment appréhender à leur manière ces mondes de plus en plus détaillés créés par les développeurs. Ils s'approprient les différents éléments de gameplay, cherchent des façons de les combiner pour trouver une manière bien à eux de jouer. Par le passé, la représentation visuelle des jeux laissait une place naturelle à l'imaginaire, comme s'il s'agissait de silhouettes composées de pointillés et qu'il appartenait aux joueurs de relier ces points. Aujourd'hui, ce n'est plus ce genre d'interaction après lesquelles on court. Mais il me semble qu'il y a toujours de la place pour l'imaginaire, que c'est même quelque chose de clé dans le rapport interactif au jeu.
Est-ce que le fait d'avoir le réalisateur du jeu original à vos côtés a rendu les choses plus simples pour vous ?
C'était très pratique d'avoir messieurs Kitase et Nomura à portée de main, d'avoir les créateurs originaux près de moi, mais peut-être pas pour les raisons que vous imaginez. Ce n'était pas tellement pour obtenir leur validation lorsque je désirais changer quelque chose, ce n'était pas tellement le problème. J'allais surtout les voir lorsque je cherchais à comprendre le cœur du jeu, ses grands principes, son essence, pour creuser ce qu'est Final Fantasy VII. Comment ils voulaient le mettre en scène, ce qu'ils voulaient montrer au départ. Et une fois que je parvenais à une bonne compréhension de ces éléments-là, tout devenait beaucoup plus simple pour mon équipe et moi de trouver les moyens d'expression les plus adaptés au public contemporain. C'est surtout par cette dimension-là, pour vérifier ce que le jeu original cherchait à transmettre, que la présence de messieurs Kitase et Nomura était essentielle à mes yeux.
À quel point la coexistence des deux jeux, l'original et le remake, a-t-elle façonné l'écriture du second, qui invoque, en quelque sorte, le jeu original dans sa propre histoire ?
Je pense que vous tapez juste avec votre dernière remarque, parce qu'il fallait, d'une façon ou d'une autre, que l'histoire de remake puisse avoir un sens autonome, qu'il puisse se comprendre par lui-même. Mais une autre façon de l'approcher, un de ces thèmes sous-jacents consiste à lire l'histoire du jeu original comme le destin, le fatum, et à installer les personnages du remake dans une confrontation face à cette histoire qui est déjà écrite pour eux, et de voir à quel point ils sont prêts à céder ou à combattre ce destin. Pour le coup, c'est le genre d'histoire qu'on ne peut écrire et rendre amusante que si on la met en regard d'une histoire déjà écrite, indépendante du remake. Ils peuvent donc bien cohabiter l'un à côté de l'autre.
Que va-t-il arriver, selon vous, au jeu original ? Est-ce qu'il sera toujours joué ou est-ce qu'il va tout simplement être remplacé par sa version plus contemporaine ?
まあ、そうですね。 Steam にはずっと置いてあるので。
Le jeu est toujours disponible sur Steam, en tout cas. Donc, je pense que les gens y joueront. Je pense qu'il y aura toujours un besoin de revenir à l'original. Certaines personnes qui vont découvrir Final Fantasy VII par son remake auront l'envie d'en savoir plus et pourront se tourner vers l'original pour voir à quoi elle ressemblait et constater ce qui a changé. Il me semble que la version mobile du jeu original pourrait dans ce cas être plus attirante. En vérité, une grande partie de l'équipe de développement du remake s'est tournée vers cette version-là quand le projet a été lancé et qu'il a fallu jouer et rejouer à l'original pour l'étudier. Ils n'avaient pas beaucoup de temps, ce sont des gens très occupés et la version pour téléphone leur permettait de jouer pendant leur trajet vers le bureau. Mais globalement, je pense qu'il y aura toujours des gens qui exprimeront l'envie de rejouer à l'original.
Quelles sont les leçons que vous avez apprises lors du développement du premier volet qui vous ont été utiles au moment de s'attaquer à Rebirth ?
Je crois que l'élément le plus essentiel que nous a appris Remake, c'est à quel point on pouvait réimaginer chaque élément de Final Fantasy VII. La réalisation du premier volet nous a permis de beaucoup travailler ce sujet, de mesurer jusqu'où on pouvait aller, de voir quel degré de réalisme on devait atteindre pour que le jeu semble moderne et excitant, qu'il réserve des surprises. Et de voir aussi jusqu'où on pouvait aller en matière de surprise. Ça nous a aidé pour la suite. Une fois qu'on a trouvé le bon équilibre sur le premier volet, c'était beaucoup plus facile d'appliquer la même méthode pour le reste de l'histoire. Un exemple évident serait la parade d'intronisation de Rufus à la Shinra. Il est nommé président de la Shinra. Il fallait qu'on mette certaines choses dans cette scène, mais on s'est débrouillé assez vite. Et on a réussi à ajouter de nouveaux éléments de gameplay, on a modifié des choses, mais pour parvenir à une scène finalement assez proche de celle du jeu original. Et la clé, c'était vraiment de trouver cet équilibre dont je parlais plus tôt. Ce savoir-faire-là nous a permis de nous concentrer sur d'autres points. On a pu davantage investir la carte du monde pour ajouter des petits morceaux de gameplay et d'histoire à travers la carte. Voilà quelque chose dont je suis fier et qui permet d'améliorer le jeu, qu'on a pu se permettre que grâce à l'expérience de cette première partie.
Est-ce que vous avez suivi les théories des fans sur les réseaux, notamment concernant les Whispers ?
La théorie que vous mentionnez, cette idée que les Whispers incarnent les fans du jeu original qui voudraient empêcher les personnages de changer le monde, je ne l'avais jamais entendu avant de venir en Europe. C'est pas quelque chose qu'on lit au Japon, en tout cas. C'est une très belle idée, une belle métaphore. Et en tant que fan moi-même, je comprends très bien l'idée qu'on puisse lutter contre l'envie de transformer une œuvre à laquelle on tient énormément, parce qu'on y a associé des souvenirs personnels. C'est même cette idée-là qui m'a guidé, alors que messieurs Kitase et Nomura me disaient au contraire « Non, non, on peut faire des changements et des changements radicaux. » C'est vraiment une superbe théorie, mais elle est fausse.
Permettez-moi une parenthèse. La façon dont on communique avec nos fans, dont on communique à propos de nos jeux, change en fonction des productions. Certains jeux, comme notre MMO Final Fantasy XIV, installent une communication permanente, un aller-retour entre les feedbacks des joueurs en ligne et les réponses de l'équipe de développement. Ce qui débouche sur des mises à jour constantes, un modèle où le contact est très rapproché. Et puis il y a le modèle plus traditionnel, où le jeu sort, le public réagit, l'équipe de développement reçoit certes des feedbacks, mais ils ne se traduisent pas en changements immédiats. Au mieux, certaines remarques vont influencer sur le développement du jeu qui suit. Cette nouvelle trilogie FF7 est intéressante car elle se trouve un peu à mi-chemin entre les deux modèles. On a ces laps de temps entre les différents épisodes et on a les retours des joueurs qui en vérité portent moins sur le gameplay que sur l'histoire et ce qu'on y change. Pour en revenir à la question des Whispers, il me semble plutôt qu'ils représentent l'équipe de développement qui tente de se frayer un chemin au milieu des remarques et suggestions des joueurs. C'est une façon de les voir en tout cas. Mais j'aime beaucoup la manière dont la communication s'est nouée avec les fans sur ce remake. Les retours sont précieux et c'est toujours bon de les écouter.
La mort d'Aeris fait aujourd'hui partie de l'histoire collective du jeu vidéo. Est-ce que vous avez eu des longues discussions sur cette scène ? Est-ce que vous avez eu des doutes sur la façon de l'aborder ? Et est-ce que vous avez changé d'avis en cours de développement ou est-ce que vous avez eu des désaccords pendant l'écriture ?
Mon avis personnel sur la question et sur la façon d'approcher une œuvre en général, c'est qu'une question comme celle-ci ne doit pas être ouverte au débat. Ce n'est pas quelque chose qui doit être discuté en équipe, mais qui repose plutôt sur une personne qui doit formuler un avis tranché.
こうコアなコンセプトというかコアなもう要素になるのでやっぱりシナリオライターのこう野島さんがやっぱりこうまずどうした
い？C'est un élément central du jeu. Son identité est profondément liée à cette scène. On a commencé par discuter avec l'équipe en charge du scénario, avec le responsable Kazushige Nojima, en lui demandant comment il voyait la chose. Puis on a pris son avis en considération, mais après cela, après qu'il nous eut exposé son approche de la scène, notre travail, en tant que créateur, était de réfléchir à la meilleure façon de mettre cette idée en image. Comment la mettre en scène jusque dans ses plus infimes détails ? Est-ce qu'il fallait par exemple que les Whispers s'invitent dans la scène ? Et si oui, comment ? C'était ce genre de questions qu'on se posait. Et à la fin, pour obtenir une œuvre forte, il faut une voix forte et claire, une décision de scénario irrévocable et indiscutable. Une fois que nous sommes entendus sur le script, on est encore loin du produit fini. Le scénario n'est qu'une explication de texte. Il restait tout un travail pour définir comment intégrer ce moment à un jeu, pour trouver comment l'exprimer en 3D. C'est là que débute vraiment le travail d'aller-retour avec l'équipe, pour trouver de quelle manière on s'y prend, quoi montrer exactement et comment le faire.
Est-ce que vous aviez à l'époque anticipé le fait que cette scène devienne si iconique ?
Il me semble que personne n'aurait pu imaginer que la scène aurait un tel impact. En revanche, je peux tenter de vous expliquer le raisonnement qui m'a conduit à réaliser cette scène. Tout ça remonte à un magazine pour enfants, je ne me souviens plus lequel, qui à l'époque du développement avait publié les résultats d'un sondage demandant à ses lecteurs ce qu'ils pensaient qu'il advenait après la mort. Est-ce qu'on revenait à la vie ou pas ? C'est effectivement une notion que l'on croise un peu partout, dans les contes, les histoires pour enfants. Cette idée que l'on peut ramener les gens à la vie comme par magie. Et j'ai été un peu choqué par le résultat, qui montrait que 80% des enfants japonais pensaient qu'évidemment, on revenait à la vie après la mort. Alors j'ai voulu faire quelque chose. D'une certaine façon, j'estimais qu'en tant que développeur de jeux vidéo, on entretenait cette croyance parce qu'on ne compte plus les jeux où la résurrection est monnaie courante. J'avais envie de faire quelque chose. J'avais l'impression de contribuer à la fabrique d'un mensonge, et c'est avec cette idée en tête que j'ai tenté de montrer un autre visage de la mort dans FF7, bien qu'à mes yeux, la résurrection ne soit pas un thème clé de FF7. Même si on pourrait avancer le contraire, sans vraiment avoir tort.
そこで思ったのはだから
Je ne voulais pas non plus tomber dans la peinture d'une mort sacrificielle, héroïque, où la mort est justifiée comme un sacrifice nécessaire pour le bien commun.
今までいた人が突然いなくなる喪失感っていうかな。そこにはこう何かの怒りとか。
Mon approche a été de creuser les sentiments qui se réveillent lorsque l'on perd quelqu'un qui nous est proche. Cet instant où tout d'un coup, cette personne qui était tout proche de nous n'est plus là. Les émotions qui surgissent avant même la tristesse ou la colère. Je pense que pour beaucoup de monde, ce premier sentiment, c'est le vide, la perte, l'impression qu'on ne sait plus quoi faire. C'est autour de ça que j'ai tenté de mettre en scène la mort d'Aeris. L'idée qu'on réponde immédiatement à la perte par la colère ou la tristesse me semblait être quelque chose de déjà trop stylisé, trop typique du jeu vidéo, une réaction archétypale. La perte. Le vide devait prévaloir.
今の聞いて、こう、私、当時、その、まさに、こう、一ファン、ユーザーだったんで、やっぱ思うのが、やっぱあの当時って、
C'est à peu près ce que j'ai ressenti à l'époque. En tant que simple joueur, en tant que simple spectateur de films, de séries ou lecteur de BD, il était entendu pour nous que les personnages principaux ne meurent jamais.
急に誰かが死んだりとかっていうもの多いですけど、あの当時ってやっぱり、なんかこう、その、なんかこう、
Quoi qu'il arrive aux héros, on savait qu'ils allaient s'en tirer. Et FF7 a été, il me semble, le ou l'un des premiers à ne pas suivre cette règle. Quand on jouait, on réalisait qu'elle était vraiment
morte.
Même si à l'époque, il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient parmi les joueurs qui disaient qu'il y avait une façon cachée de la faire revenir à la vie, qu'il fallait juste la trouver.
そういうなんだろうな、その意外性でこうキャラクターがこうなくなってしまうみたいなのの、まあ、走りの作品だった。
Cette scène est restée, c'est que pour ma génération, c'était la première fois qu'un personnage de cette importance mourait sans jamais revenir.
Thank you very much. ありがとうございます。
ありがとうございます。